Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17, avenue des Pins.
Hey Guillaume, je pensais jamais être aussi content de te voir.
Ben voyons donc, comment
ben,
ça?
Ben là, ça fait quoi, deux semaines là, qu'on se croise pas au 17 avenue des Pins?
Ben, j'espère, hein? Moi ça me rend un peu malheureux. Là. Je vous entendais, Benoît et toi, puis je trouvais que vous aviez une belle complicité. Puis...
Ah, ben, je pense qu'on aurait eu une belle complicité si on avait été trois aussi. Hein?
Oh, mieux vaut. Comme l'a dit l'expression, jamais deux, sans trois, en veux-tu, tu l'auras.
Hey, c'est-tu une belle expression? En fait, je mens un peu parce qu'on est, on était au 17 avenue des Pins pour le spécial de, voyons, de Donald Trump.
Oui, quoi, des élections.
Avant ça, parce que l'émission était enregistrée avant, puis l'autre d'avant, on n'avait pas pu vraiment être ensemble. On avait fait ça juste avant l'impro. Ouais. Fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un épisode au complet qui n'était pas quelque chose de spécial.
Exact. Fait que je suis content de me retrouver avec toi au 17 avenue des Pins, Maxime. Puis en plus, j'ai quelque chose de drôle à te raconter.
Ben, raconte-moi donc cette chose drôle.
Ben là, aujourd'hui, on est samedi, OK?
OK.
Puis samedi, c'est le match du Rouge et Or. Puis là, c'est vraiment hot.
Le match du Rouge et Or, il joue un match dans l'année?
Non, mais le match qui est important, c'est-à-dire la demi-finale pour la Coupe Vanier.
OK, ben c'est le match le plus important jusqu'à temps qu'il gagne.
Exactement. Okay. Après ça, il va y avoir un autre match qui va être encore plus important. Puis l'autre d'avant aussi était important. Mais ça fait trois matchs importants, je dirais, dans la saison.
OK.
Ce qui fait que le Rouge et Or joue contre, je sais plus trop quelle équipe, mais je pense que c'est dans la Ligue de l'Ontario ou un truc de même.
Le Noir et Or?
Ah non, même pas.
Non,
je
okay.
sais même pas c'était quelle équipe qui était en liste,
bon,
en fait.
Contre une autre équipe. Qui, eux aussi, jouent un match important.
Un match important, mais c'est le Rouge et Or qu'on encourage. Vive Laval! Laval, c'est ma place.
Yo, Laval!
C'est
ma
place. Le mot bas. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je m'en viens, j'étais en train de conduire mon automobile pour aller au 17 avenue des Pins. Passe à côté de moi une voiture du TVA Sport.
Non!
Oui, pour moi, il s'en allait à l'Université Laval pour couvrir le match.
Ben, j'imagine.
Du Rouge et Or, oui.
C'est qui conduisait? Y avait-tu quelqu'un de connu dans l'auto?
C'était un homme qui conduisait avec un masque de football.
Quoi?
un
casque de football?
Il y avait un casque de football.
C'est pas illégal?
Je sais pas.
Ben, ça doit réduire sa visibilité.
Peut-être.
Il y a des grilles d'en face.
Ouais.
Mais bon, vrai, il était vraiment mindé à aller voir le Rouge et Or.
Ben, écoute, c'est malade. En plus, je sais même pas s'il joue à Québec. Il doit jouer à Québec. Oui, il y a le tailgate, c'est vrai. Il joue à Québec. Fait que, c'est ça. Il joue le match à Québec. Vous autres, vous savez le résultat, là, à l'heure qu'il est là. Mais nous autres, go Laval.
Go Laval. Hey, personnellement, moi, j'aimerais dire que le football, là, en live, c'est pas très cool.
Comment ça?
Ben, parce que, un, c'est extrêmement bruyant, fait que c'est un peu comme aller clubber. Je veux dire, t'es pas capable de parler rien, tout ce que t'entends, c'est des gens crier puis des bruits de trompettes.
Ben, faut que tu t'en attends dans quelque part, tu t'en vas voir un match de sport, une bibliothèque.
Non, je sais, mais si tu vas voir un match de hockey, tu peux parler avec les autres personnes à côté de toi, c'est pas bruyant. Le football, c'est bruyant, pis ça n'a pas besoin d'être bruyant, sur mon avis.
Ouais, mais c'est parce que les gens sont vraiment emballés par le match.
Ben, tout comme le Quereton médaille d'or, ben moi, ça ne me plaît point. Pis deuxièmement, ben, le jeu, il est tout le temps arrêté.
C'est vrai, ça c'est vrai.
Voyons donc.
Une critique que j'ai à faire au football, le jeu n'est pas en continu. Pis ça me dérange. Mais il y a beaucoup d'amateurs qui, eux, sont capables de se concentrer sur le fait qu'il y a du bon football.
Ben ouais, mais il y a du bon football, genre 3 secondes par minute.
Ouais.
Ben moi, j'ai pas de déficit d'attention. Fait que je suis capable de me concentrer plus que 3 secondes sur une action.
Le truc, c'est l'ambiance. Tu sais, c'est l'ambiance, les gens autour de toi. Puis comment que ça se passe pendant que t'es au stade, pas pendant que tu regardes le match. Le trip, c'est d'aller au stade. C'est comme quand tu vas voir un match de baseball, les Capitals ou des Expos dans le temps, là, ou des Nationals de Washington aujourd'hui. Mais quand tu vas voir un match de baseball, c'est pas nécessairement parce que c'est tout le temps actif et que les joueurs sont vraiment très, très,
non, mais...
très, très sollicités. C'est parce qu'il y a une ambiance au stade qui est différente.
Oui,
c'est
mais
pas
je...
pareil.
Contrairement au football, le baseball, lui, c'est des duels. C'est un duel, c'est un frappeur contre un lanceur. T'sais, on attend, il y a une tension qui se crée entre le frappeur et le lanceur.
Ouais.
Mais tu sais, quand les footballeurs sont là en cercle en train de se faire des stratégies et des caucus, Moi, je sens pas la tension. La tension, elle est là, genre, pendant le 2 secondes qu'ils vont pour lancer le ballon. Tout ce qu'il y a avant, moi, je sens pas la tension.
Ben, tu sais, quand que tu finis un match, mettons, tu vas voir, je sais pas, tu vas voir le Canadien, puis après ça, tu t'en vas dans ton char, puis tu parles du Canadien avec ton chum. Mettons, tu dis, ah, ça a été un beau jeu, tu te souviens-tu quand que
ouais.
Desharnais a fait telle chose, il a compté une passe d'un peu. Tu sais, ce moment où est-ce que tu parles avec ton ami pour y raconter un peu ce qui vient de se passer dans le match, c'est un moment qui est agréable quand même.
Oui, ah, ça, je suis d'accord.
Comme quand on va faire de l'impro puis qu'après ça on se parle, on dit ah, cette impro là c'était bon.
Ouais, tu ouais. Telle, c'est telle quand est-ce que tu fais de l'impro toi?
Moi c'est le lundi soir au Patro Rocamado, toi c'est quand?
Ben, c'est le lundi soir au Patro Rocamado. Ben, on fait de l'impro ensemble.
En plus c'est gratuit puis Yves Lafleur est là.
Hey, on est-tu rendu une vraie ligue hein?
Enfin, ce qui fait que ça ce moment-là tu peux le vivre tout le long du match au football.
Mais on peut pas justement parce que c'est fucking bruyant pis qu'on peut pas se parler.
Non, toi ça c'est juste dans ta tête. C'est juste dans ta tête.
Non, ok. C'est justement, t'as des bons arguments quand même. Je peux comprendre les gens qui aiment un sport qui joue un peu plus comme un jeu de stratégie. Mais ouais. Pour moi ça me dérange parce que je trouve que c'est bruyant pis justement on peut pas en parler entre les jeux pis les jeux durent pas assez longtemps.
Bon, ben t'es un vrai Québécois. Fait que toi, Maxime, comment ça a été cette semaine?
Hey, une semaine quand même pas reposante.
Mais
pourtant, j'avais pas grand-chose de prévu cette semaine, mais j'ai quand même été fatigué toute la semaine. Écrit, j'ai fini ma journée de travail lundi, j'avais l'impression qu'on était vendredi.
Hein?
Hey, pour vrai, j'étais comme, mon Dieu, cette semaine va être longue.
Ben, j'espère que c'est long.
C'était pas terrible, ça, mais... c'est pas grave parce que le soir même, on a eu de l'impro, puis c'était de la Christie de bonne impro.
Hey,
pour
c'était
vrai.
Bon en tant que
ouais, vraiment des bons matchs. Cool. Hey, on a fait des drôles de personnages. Hein?
Oui. Hey, ton Nadja.
quand on était à Drummond pour jouer pour la Ligue provinciale, on avait une des amies à Charles-Alex qui s'appelle Lou.
Ok.
Puis il y avait une entrevue, puis elle a été faire ce personnage-là, puis tout ce qu'elle disait, moi c'est Nadja.
Oh, t'as volé le personnage!
J'ai volé le personnage de Nadja!
Oh mon tout!
Mais j'ai pas joué pareil parce qu'elle faisait juste répéter la même chose, parce que moi c'était une Italienne qui aimait beaucoup les tomates.
Ouais, effectivement. Particulièrement.
Fait que je me suis inspiré de son personnage de Nadja, puis je pense que c'était quelque chose. C'était quelque chose à voir.
Quelque chose,
puis comme on a dit, chantante à Yves Lafleur, parce qu'Astor, il vient voir la Lipra.
Oui.
Puis toutes les ligues professionnelles d'impro à Québec ont comme spectateur Yves Lafleur.
Ben, c'est ça. Fait qu'on est une ligue.
On est rendu une ligue professionnelle. Pendant ça, j'ai aussi fait des cartes de joueurs.
Oui, elles sont très belles. Ben, moi, je les aime beaucoup.
Merci
j'aime
beaucoup.
Ton concept. Puis à tous les joueurs de la Lipra qui aiment pas le concept, qui préféraient juste avoir un logo avec une couleur, moi, j'aimerais pas tant ça.
Non, pour vrai, je comprenais pas ce commentaire-là. Puis il y a comme deux personnes qui disaient, oh ouais, on devrait vraiment avoir un logo avec juste une couleur. J'étais comme, mais oui, mais là, toutes les cartes vont être pareilles. Là. Le but d'avoir des cartes de joueurs, c'est de pouvoir montrer des moments d'impro qu'ils ont fait. Ben, c'est pour ça que j'aimais le fait de mettre une photo. Puis là, en plus de le faire comme dessiné, je trouvais que ça donnait comme un peu plus de style. Puis ça mettait pas trop de couleurs dans l'image.
Non, c'est
ben,
ça.
C'est,
ça volait pas le spectacle. Ça volait pas le center stage, tu sais.
T'avais non,
quand
c'est
même
ça.
Le joueur qui était en avant-plan puis qui ressortait du lot.
Exactement. Puis contrairement, mettons, à une carte de sport, ben, tu sais, les sports, veux pas, les photos vont toutes se ressembler.
Oui.
Ben, veux pas, tu prends une photo d'un joueur de hockey, ben, c'est tout le temps sur un fond blanc, de la glace puis tout. Fait que nous autres, étant comme des joueurs d'impro pis qu'on joue un peu n'importe où, les photos pouvaient être pas mal plus colorées pis plus dérangeantes, si on veut, pour le concept.
Ouais.
Fait que vous irez voir ça sur la page d'Alipra, j'imagine. Ou 17 Avenue des Pins, je peux...
Ouais, 17 Avenue des Pins.
On va mettre la carte de Guillaume pis la carte de moi sur le 17 Avenue des Pins, vu qu'on est les animateurs, vous allez pouvoir voir ça.
Yes!
Fait que non, c'est ça, j'ai comme un peu plus travaillé sur les projets cette semaine, fait du ménage dans mon ordinateur. Fait que c'était quand même fatigant, mais j'ai quand même pu quand même pas mal travailler sur mes affaires. Puis crime, j'ai écouté Party de saucisse.
OK.
T'as-tu vu ce film-là?
Non, j'ai pas vu ce film-là, puis j'étais comme vraiment pas inspiré par l'idée.
C'est tellement drôle!
Ah ouais.
C'est tellement colon! Parce que dans le fond, ça commence avec le concept d'un peu comme histoire de jouer, que tous les aliments, ils ont une conscience.
Ouais.
Mais là, ça commence avec l'épicerie, puis c'est le début de l'épicerie, puis là, tous les aliments chantent le bonheur d'aller à l'au-delà.
Okay. Ah,
je l'ai vu en anglais par contre, c'est The Great Beyond, fait que là, peut-être que c'est pas comme ça qu'ils le disent en français, là. Mais en tout cas, ils chantent les louanges d'aller dans l'au-delà, quand les humains les achètent. Là, finalement, il y a un pot de moutarde au miel qui se fait retourner, puis là, lui, il capote, il est comme, oh non, c'est tout des menteurs, c'est tout des menteurs. Puis là, finalement, Les personnages principaux, c'est une saucisse puis un pain hot dog qui sont très sexualisés. Là, ouais. Ça, on a pu le voir dans les photos.
Ouais.
Dans les photos, dans les trailers. Puis là, finalement, quand ils viennent pour se faire acheter, il y a un accident, il y a de la farine partout. Ça fait comme une scène de guerre. Là, c'est comme... Ah! Puis là, un pot de bin, genre, qui est tombé par terre, qui s'est ouvert. Puis là, c'est comme si c'est tripes qui sortaient. C'est vraiment intense. Puis là, après ça... On suit la saucisse puis le pain qui essaye de retourner dans l'allée des saucisses puis des pains pour aller dans un autre emballage pour réussir à aller dans l'au-delà. Okay. Et finalement, la saucisse rencontre les aliments impérissables qui sont des êtres éternels. Okay. Qui leur expliquent que l'au-delà, c'est de la bullshit puis que tout ce que les humains font, c'est manger puis tuer tout le monde. Mais que là, tout le monde dans l'épicerie, c'était tout le temps du gueulage puis ils capotaient tout le temps parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire bouffer puis tuer par les humains. Fait que là, eux, ils ont inventé la chanson de l'au-delà, que c'est tellement beau. Puis bon, puis là, tout le monde a accepté ça. Okay. Puis là, à Star, ben, tout le monde est content d'aller au-delà. Mais quand ils arrivent dans la cuisine, ben finalement, ils sont comme « Hey, mon Dieu, ils mangent les bébés carottes! C'est des bébés, genre! » Puis ils coupent tout le monde, ils arrachent la peau des pommes puis des patates.
Ouais.
Puis finalement, ben ça finit que là, les aliments se rebellent puis ils tuent les humains.
Ah! Fait que tu viens de donner un spoiler.
Hey, ben, je donne un gros spoiler, mais l'important, c'est pas ce qui se passe, c'est comment ça se passe. Parce okay. que là, on parle que c'est des aliments sexualisés, puis que c'est crissement drôle. Ils sacent beaucoup. Fait que okay. si jamais vous êtes comme un peu sensible au sac, écoutez pas ça. Mais sinon, moi, je le recommande. C'est très, très drôle, puis ça a bien fait une soirée de relaxation, de pas penser à autre chose qu'à des saucisses.
Puis de la relish. Mettons, si tu devais classer ce film, sur combien de saucisses tu le classerais?
Hey, je dirais un bon un paquet de 7 saucisses.
Un paquet de 7 saucisses,
genre,
ok.
Ouais.
Pas les Costco, là.
Non, pas les Costco, parce que là, il y a genre 1 million de saucisses.
7 sur 800, là, c'est pas bon.
Non, un 7 saucisses sur 10 saucisses.
Ok.
Puis dans 4 pains.
Ok.
Fidèles à leur coutume, les frangins reçoivent un invité au 17 avenue des Pins. Sans crier gare, un homme d'un âge certain fait son entrée derrière le micro.
Bon, c'est pas parce qu'on est au 17 avenue des Pins pis Guillaume est là que on enlève la place à un invité.
Aucun non, c'est toujours important d'avoir quelqu'un pour nous épauler parce que des fois, tu sais, on se ramasse hors des sentiers battus, puis ça, c'est un jeu dangereux.
Oh que oui! Et aujourd'hui, c'est qui qu'on a comme invité? Jean-Louis Trudel!
Bonjour, enchanté. Bonjour. Enchanté.
Donc, Jean-Louis Trudel, qui êtes-vous dans la vie, vous? Un petit résumé pour donner une idée là, à nos auditeurs.
Ah ben, comme tous les gens ordinaires... J'ai un travail, j'ai une identité officielle et j'ai aussi une identité secrète.
Mais là, c'est secret, est-ce que tu as le droit d'en parler?
Ah ben, c'est comme Iron Man.
Ok, c'est ça.
Ah, ok.
c'est un secret de polichinelle.
C'est bien correct.
Donc, en plus d'être à temps partiel comme professeur à l'Université d'Ottawa, je suis aussi écrivain, traducteur, critique, grosse production en science-fiction et autres trucs associés.
Donc, tout ce qui touche à la littérature un peu de près et de loin.
Oui, mais surtout science-fiction et fantastique.
OK, science-fiction et fantastique. Mais là, on sentait qu'en ce moment, nous, on est à Québec. Vous t'enseignes à Ottawa. C'est un trajet que vous faites régulièrement?
Une fois par semaine quand j'enseigne. Ça... Oui.
C'est pas la porte d'à côté, mais quand même.
Non, mais tu sais, des fois, ils disent qu'il faut faire des sacrifices pour commencer une carrière, hein?
Ah, dans le milieu universitaire, c'est un peu ça. De plus en plus pour les professeurs.
Ben, même à tous les niveaux, tout ce qui est enseignement, ça a l'air d'être très contingenté, on s'entend.
Effectivement, moi, j'ai une de mes collègues de travail qui doit faire un stage pour être enseignante en arts plastiques. Puis, si ça continue comme ça, elle va avoir un stage en Beauce alors qu'elle reste à Château-Richer, ce qui est complètement ridicule.
Ouais, hein? Moi je travaille en informatique avec un gars qui était prof d'histoire de formation. Il a passé son temps à faire du remplacement de la construction. Ça, c'était son emploi de prof. Puis là, après genre 5-6 ans, il s'est bien rendu compte que ça menait à rien. Il était faire un deck en informatique.
Ben,
Voyons, un bac. un bac en informatique.
En même temps, je suis plongé un peu dans le milieu de l'éducation aussi, ce qui fait que je le vis un peu, ces problèmes-là, au quotidien. Mais quand même, tu sais, c'est quand même très louable, je pense.
Oui. Ben, c'est un temps partiel, et donc ça me donne du temps pour écrire. C'est, quelque part, c'est une de mes justifications. Je suis pas sûr de jamais obtenir un poste dans mon domaine, mais en attendant, ça me permet d'écrire. Et c'est, quelque part, mon super pouvoir.
Moi, je trouve ça bien, parce que le monde occidental, là, surtout les États-Unis, Canada, c'est peut-être un petit peu moins pire, mais c'est très focusé sur la carrière. Là,
ah, c'est tellement vrai, ça.
T'es tout petit, là, t'es comme, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Ben, on le sait pas. J'ai 5 ans, le seul métier que je connais, c'est le chauffeur d'autobus. Fait que je vais dessiner un chauffeur d'autobus.
Puis comme j'aime dire bien souvent, je pense que la carrière, c'est pas nécessairement un objectif de vie, mais c'est plutôt un moyen par lequel tu peux vivre.
Ben oui, ben c'est ça, parce que au final, si tu fais 50 heures en tant que vendeur d'assurance, ben à la fin, est-ce que tu te sens vraiment plus gratifié d'avoir pris de l'argent à plein de personnes pour leur assurer qu'ils vont avoir de la protection peut-être un moment donné? Tu sais, c'est, moi personnellement, je suis, ben, tu sais, oui, il en faut, mais en même temps, je pense que c'est pas nécessairement ce qui m'attire le plus d'aller chercher des trucs chez les gens.
Non, exactement. C'est la motivation intrinsèque en quelque part qui, je pense, justifie si ta carrière en quelque part est louable ou non. Je me permets ce commentaire.
Je dirais que ça dépend de chaque personne. Il peut y avoir des personnes qui, justement, considèrent que vendre de l'assurance, l'assurance vie, c'est leur façon à eux d'aider le monde.
C'est vrai. Dans le fond, ça appartient à chaque personne de savoir ce qu'ils veulent faire du moment que ça rend heureux. Je pense que c'est ça le plus gros problème, c'est que les gens sont pas heureux. Tu sais, on parlait justement, là, on trouve pas de la place en enseignement, mais on sentait que les gens qui ont été en enseignement, c'est parce qu'ils voulaient enseigner.
Ouais, exactement. Ils poursuivaient quelque chose qui les drivait en quelque part. Là.
Mais tu sais, les professeurs, surtout les enseignants au secondaire, ils doivent avoir quand même une bunch de gens qui ont cet emploi-là juste pour payer leur métier puis qui aiment plus ça, puis qui empêchent les gens qui voudraient embarquer puis qui aiment ça.
Ouais, mais il irait dans n'importe quel métier, puis tu penses pas en quelque part que c'est lié intimement au tempérament plus que d'autres choses, là?
Peut-être, mais...
Bref, on va le temps dans la peine.
Donc, Jean-Louis, tu parlais de science-fiction.
Eh oui.
Et où est-ce qu'on peut promouvoir ça, la science-fiction, au Québec?
Ben, je vais commencer par parler... c'est pas tout à fait mon bébé à moi, mais je m'en occupe depuis maintenant, hein, 20-25 ans. Le Congrès Boréal.
Oui.
Congrès Boréal qui existe depuis 79 et rassemble chaque année des lecteurs, des auteurs, toutes sortes de personnes qui s'intéressent à la science-fiction. J'avoue que même si les intérêts sont souvent très multiples, c'est axé sur la littérature. Donc, faut aimer en lire, pas seulement en regarder à la télé ou au cinéma, mais on n'est fermé à personne.
Okay.
Et il y a toujours des gens parfois super intéressants. L'an prochain, ce sera à Québec. Un des invités sera Patrick Sénécal, évidemment. Et il y aura aussi un certain nombre d'autres jeunes écrivains, aussi des écrivains plus âgés. Elisabeth Vernambourg, Philippe Aubert-Côté, passant par Héloïse Côté et plusieurs autres.
Chantant à tous ces noms-là en passant.
Est-ce que c'est limité aux auteurs locaux ou bien on ouvre la porte d'enfant à tous les auteurs internationaux?
Ouais. Ah ben, c'est ouvert à tous, mais bon, il y a des questions de frais, d'argent. Et donc, au fil des ans, selon les budgets, les subventions, les petites invitations spéciales, l'an dernier, on était à Mont-Laurier, mais on a eu Christopher Priest comme invité. Et Christopher Priest, si ça vous dit rien, ben peut-être que le film de Prestige.
Oui, c'est son film préféré.
Bon, ben... On a eu Christopher Priest pour nous-mêmes là, pendant 3 jours.
OK, quand même, c'est une bonne poigne, je pense.
Avoir su, hein?
Hey, je serais allé.
Le problème, évidemment, c'est toujours effectivement la publicité. L'événement est petit et il faudrait rejoindre tout le monde qui est intéressé au Québec. Au-delà du budget même d'une Comic-Con, et on n'a pas le budget d'une Comic-Con.
Ben, avant de retomber dans le sujet de la publicité et la popularité de la chose, on disait que c'est surtout axé sur la littérature. Qu'est-ce que la littérature de science-fiction a de plus que les autres médiums qui peuvent présenter de la science-fiction?
Ben, comme quelqu'un qu'on espère avoir l'an prochain aime le dire, c'est les budgets. C'est-à-dire, ça peut paraître bête, mais en fait, pour avoir, disons, une bataille spatiale avec 2000 vaisseaux, au cinéma, ça coûte cher, à la télévision, c'est presque impensable. Tu l'écris sur une page et tu l'as.
Ouais. Okay.
Donc, en science, avec la littérature de science-fiction, elle peut faire à peu près tout ce qu'on peut imaginer. C'est moins immédiat, c'est pas là devant toi, mais par contre, tu peux te permettre des choses qui vont faire blanchir, blêmir un réalisateur au cinéma. Là, on vient de voir le film The Arrival, l'arrivée,
oui,
2009, un Québécois qui se met à la science-fiction. Mais ça, c'est tiré d'une nouvelle de Ted Chiang. D'ailleurs, il a été invité au Congrès boréal en 2010, ici,
okay,
à Québec.
Okay. Hein, des précurseurs des grandes
ouais,
choses.
Ben oui.
Ben oui,
Akan Asimov. Akan Asimov.
Il est mort.
Akan.
Mais c'est un jour, on va atteindre la science-fiction pour pouvoir inviter les morts aussi. Là.
Ah ben, disons que je me souviens d'un congrès en 88 à Chicoutimi où on a eu Jules Verne grâce à une boule de cristal et un peu d'invocation des esprits des morts.
Ah, quand même.
Quand même, ça prend l'imagination. Mm-hmm. Tout comme la littérature. Fait que, comme on disait, donc avec des livres, on peut se permettre des trucs qui vont être plus grandioses.
Et on peut aussi s'introduire dans les pensées des personnages, ce que là aussi, à la télévision, au cinéma, c'est plus difficile, parce qu'on voit ce qu'ils font,
ouais.
Et à moins qu'il y ait une narration en voix off, on n'a pas nécessairement accès à leurs réflexions. Et les réflexions, ça peut être très intéressant, également. Donc, il y a toutes sortes de possibilités avec l'écriture qui sont parfois plus difficiles, voire impossibles au cinéma, à la télévision. Les jeux vidéo, c'est quand même aussi formaté par rapport au but de jouer, donc il y a des contraintes.
Mm-hmm.
En principe, c'est ça, il y a quand même relativement peu de contraintes en écriture. On peut avoir aussi des personnages, des romans qui se passent sur 200 ans, 40 ans. C'est possible au cinéma, mais là aussi, hein, le budget en termes de changement de costume, vieillir les personnages. Non, c'est ça, la littérature permet beaucoup de choses.
Puis à un niveau, justement, là, on utilise l'imagination. Mais est-ce que c'est pas une façade qui peut être difficile ou intimidante en écrivant de la science-fiction parce qu'il faut décrire des choses qui n'existent pas, ou c'est libérateur de pouvoir justement briser des moules?
C'est un peu des deux selon les écrivains, parce qu'il y a des écrivains qui justement se saisissent de la liberté de l'écriture pour imaginer toutes sortes de choses. Mais la science-fiction en particulier, parce que le fantastique, la fantasy, c'est beaucoup plus ouvert. La science-fiction en particulier, on essaye justement de respecter une certaine forme de vraisemblance. Et à ce moment-là, donc, on essaye de jouer un jeu. On compare parfois ça à du tennis, c'est-à-dire que on peut jouer au tennis sans filet. C'est-à-dire, on joue sans les règles, il n'y a pas de problème pour envoyer la balle, elle va jamais se heurter au filet.
Ouais.
Mais et donc ça pourrait être comparé à une histoire de fantastique ou comme dans le dernier film dans l'univers de Harry Potter.
Oui.
Où un tour de magie et on met des animaux dans une valise et ils sortent une valise et tout ça. Et on n'essaie pas d'expliquer comment ça marche. C'est de la magie. Mais si on fait de la science-fiction, on va vouloir essayer d'expliquer comment ça marche dans le monde qu'on connaît, qu'on croit comprendre. Et c'est là qu'effectivement, on fait monter le filet sur le court de tennis. Et de temps en temps, il y a des gens qui vont jouer au tennis avec un filet. Et parfois, les balles vont pas réussir à passer le filet.
Okay, ce qui fait que, si on doit, dans le fond, distinguer le fantastique du science-fiction, si je ne m'abuse, la science-fiction, c'est d'ajouter des contraintes dans des inventions, si on veut.
Oui, ben c'est compliqué.
Ouais.
It's complicated. Mais c'est quelque part, tu veux que ce soit cru par le lecteur sans l'obliger à se dire, ah bon, c'est n'importe quoi, c'est de la magie. Il y a certainement toujours, même quand des gens regardent quelque chose comme The Arrival, des gens qui vont se dire « Oh, c'est n'importe quoi, c'est de la science-fiction. » Mais en fait, la science-fiction essaye de jouer avec les contraintes du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Okay.
Je lisais, par exemple, le blog de Stephen Wolfram, qui a été consulté par Denis Villeneuve pour essayer d'imaginer, par exemple, comment les extraterrestres de ce film se déplacent dans l'espace. Et bon, c'est un physicien, il a un background en physique, en plus d'être un entrepreneur avec des logiciels de calcul et de programmation. Donc, il a imaginé certaines choses et il a fourni aussi certaines scènes du film. Et même si ça n'apparaît pas dans le film, le fait que Denis Villeneuve ait fait l'effort permet en tout cas de distinguer justement un film comme The Arrival, disons des films de super-héros, où on n'essaie pas d'expliquer comment peuvent cohabiter les pouvoirs d'Iron Man, The Incredible Hulk et Thor dans le même univers.
Ben, oui, puis non, ben, là, on touche une corde que je connais un peu plus, mais il y a quand même une ligne, il essaye quand même de suivre une ligne qui peut expliquer comme... C'est pas grand chose parce que tout d'abord ils veulent vendre un spectacle. Il y a tout le temps des quelques lignes dans chaque film où est-ce qu'ils sont comme ah oui mais eux c'est juste des êtres supérieurs qui ont des technologies qu'on comprend pas encore ou des trucs comme ça. Ben, c'est pas très expliqué mais ils essayent de quand même de garder ça. Mais ben, veut pas faut que les gens puissent pouvoir comprendre. Hey là, lui il rit de moi parce que je suis très mal justifié.
Non mais ben, c'est toi en fait, mais un peu plus parce que t'es très partisan. Là, on dirait le fan du Canadien là qui est comme oh ben ça s'explique là, c'était pas un but, ça aurait pas dû être un but, ça l'arbitre aurait dû siffler l'arrêt du jeu.
En fait ça marche effectivement les super-héros dans une sorte de méta-univers. Et moi je considère ça comme étant un peu des évolutions divergentes. Au tout début il y a 70 ans dans les années 30. Les comics américains, la science-fiction qui apparaissait dans les pulps américains, c'était pas mal la même chose et fonctionnait un peu pas mal de la même manière. Les pouvoirs de Superman, à l'origine, c'est expliqué un peu comme on expliquerait les pouvoirs d'un être supérieur dans la science-fiction. Il vient d'une planète, peut-être une gravité supérieure à la Terre, surtout le Soleil différent. Et donc, c'est un extraterrestre. Et au début, il volait pas nécessairement, il sautait,
ouais, disons,
il sautait très haut. Et puis à un moment donné, il y a eu une sorte de surenchère dans les comics qui a mené à des super-héros de plus en plus, disons, incroyables. Et quelque part, à un moment donné, il faut carrément changer un peu l'univers tel qu'on le connaît pour les justifier. La science-fiction, c'est un peu plus ou moins continué dans la ligne de... On essaie de viser une certaine vraisemblance pour des lecteurs qui s'en soucient.
Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, Guillaume.
Tu voulais dire que j'ai préparé une carte?
Hey, non, on n'est pas encore rendu à la carte.
Ah, ok, ben je la garde de côté.
Garde la carte de côté. Non, ce que je voulais dire, c'est avec les technologies dans le monde qu'on vit qui progressent sans arrêt, on s'entend, il y a 20 ans, des tablettes, ça n'existe pas. L'Internet, il y a une personne sur trois qui l'avait. Est-ce que ça facilite l'écriture parce que justement les trucs les plus invraisemblables semblent de plus en plus vraisemblables, ou c'est plus difficile d'aller écrire de la science-fiction parce que ça tombe juste dans la catégorie science, admettons?
Ah, c'est une excellente question à laquelle on réfléchit depuis un bout de temps, plusieurs raisons, parce qu'il y a aussi à l'intérieur de la science-fiction, il y a eu un moment donné des gens qui ont défendu la singularité, une autre paire de manches. Moi, je dirais que depuis, il y a eu une génération justement qui a lancé un peu la science-fiction moderne dans les années 40 et 50. Quelque part, le progrès était en fait, je soutiendrais, encore plus impressionnant qu'aujourd'hui. Parce que, comme le disaient certains des auteurs de cette époque-là, et ça s'appliquait même à certains des auteurs de cette époque-là, ils avaient grandi parfois avec essentiellement des chariots à chevaux, des charrettes à cheval. À l'époque de la vapeur. Et quand ils ont vécu, disons, jusque vers dans les années 60, ils ont vu l'homme marcher sur la lune. Il y avait des ordinateurs déjà dans les années 60. Donc, en l'espace de 70 ans, une vie humaine, tu pars d'un monde qui est très différent à un monde où on marche sur la lune, on a des ordinateurs et tout ça. Aujourd'hui, je suis parfois un peu moins impressionné par le progrès qu'on a fait depuis 650 ans ou même vie humaine, parce que c'est ça, les ordinateurs, ils sont là depuis effectivement à peu près 70 ans, le voyage spatial à peu près 60 ans, et donc parfois je me demande en fait si les lecteurs justement sont si ouverts que ça à la science-fiction, dans la mesure où ils ont grandi dans ce monde-là, ils tiennent pour acquis effectivement certaines choses, mais ils n'ont pas nécessairement vu beaucoup de grosses nouveautés. On n'a pas vu quelqu'un marcher sur Mars ou arriver d'une autre étoile. On l'imagine, mais est-ce que ça paraît justement peut-être trop incroyable parce qu'on n'a pas vu tout ce mouvement de changement qu'il y a eu un peu plus tôt dans le 20e siècle?
Le changement, au lieu d'être plus éloigné, dans des grands concepts, le changement s'est plus produit au niveau humain et interrelationnel. Il y a plus personne qui parle de l'étalement urbain, mais de l'arrivée en ville. Mais toutes les gens, de la manière qu'ils vivent dans la ville, ça a plus changé.
Je pense que oui, mais ce sont des médias souvent. Mm-hmm. C'est certain que l'informatique, le téléphone intelligent a permis de ramasser en un seul objet quelque chose comme 15 à 20 technologies différentes qu'on avait auparavant. Les appareils photo, les cartes papier, les plans papier d'une ville pour se guider dans la ville, mm-hmm. le téléphone lui-même, la lampe de poche. Tout ouais. ce qu'on peut faire avec un téléphone intelligent, c'est maintenant ramasser en un seul appareil. Mais d'un autre côté, la plupart de ces fonctions-là, on les avait déjà, mais séparément. Alors, ça rend plus portable, indépendant, ça atomise un peu l'existence. Et ça, c'est justement quelque chose qui nous interpelle, comme écrivain de science-fiction, de réfléchir à ce que ça fait et ce que ça pourrait faire dans le futur. Parfois, j'ai l'impression qu'on est en train aussi de revenir à certains passés. On a parlé de l'influence de Facebook sur l'élection de Donald Trump. Et bon, ça rappelle, disons, le rôle des médias à des époques comme l'élection de Hitler, ou même on pourrait remonter mm-hmm. plus loin. On pourrait même remonter à des époques comme la guerre civile aux États-Unis, et où il y avait des presses extrêmement partisanes. Il n'y avait pas nécessairement de conseil de la presse, alors les fausses nouvelles circulaient. Et ben là, on en parle par rapport à Facebook, parce que Facebook est apparu comme un réseau social, mais qui n'était pas justement réglementé comme les autres médias. Et tout d'un coup, on a vu que ça permettait, surtout à l'ère de la globalisation et des fausses nouvelles générées, je ne sais pas, jusqu'à la Croatie, en Macédoine peut-être, de ne pas tomber sur le coup de quelque loi que ce soit. Et tout d'un coup, on revient à un monde médiatique hyper partisan, hyper biaisé, et qui peut entretenir le genre de divergence qu'il y avait il y a longtemps. Donc, certaines choses ne sont pas si nouvelles que ça. Comme ça, c'est mon dada comme historien.
Ah, c'était très intéressant. Je pense que là, on peut dire qu'on a fait quand même un bon petit tour de la question, puis que je peux aller ramasser la petite carte que okay. Guillaume...
Fais attention, tu sais, j'ai barré en haut, là, ça commence à être en ta présence.
Ok. Être en ta présence me rappelle certains livres d'un certain grand auteur connu de science-fiction, car nous sommes... voyons, Guillaume, là...
Ben, c'est parce que j'ai échappé mon stylo puis mon café. Okay.
Car quand nous sommes en ta présence, c'est comme si je voyageais 20 ans dans le futur. Est-ce qu'on reste avec nous pour les prochaines chroniques?
D'accord.
Yeah!
Cool!
Jean-Louis parvient à lire « Question pour un shampoing » dans l'ordinateur de Maxime, décroche un rire et semble confus. De regard complice, Maxime et Guillaume s'attardent à la grande question. Qu'est-ce que le 17 avenue des Pins exactement?
Le 17 avenue des Pins, c'est la première expérience. J'imagine que t'as pas écouté ça non plus jusqu'à présent.
Non, c'est ce que je disais à Maxime. J'avais pas eu le temps d'écouter vos précédentes émissions.
C'est dommage parce qu'on n'est pas diffusé sur les ondes de Cogeco. Fait que on doit se débrouiller autrement. Ce qui fait qu'on va essayer de t'expliquer rapidement c'est quoi le 17 avenue des Pins.
Ben, c'est le 17 avenue des Pins, là. On explique souvent aux gens, là, c'est comme une journée de vacances entre deux frangins, mais il y a beaucoup de concepts qu'on essaye de mettre en marche, puis on n'a pas souvent de retour sur les segments individuels.
Un peu comme quand tu veux construire un troisième lien. C'est un concept, mais tu n'as pas souvent de retour, mais en tout cas, ou bien déménager une équipe de hockey de la Caroline vers Québec. Ce qui fait que on pourrait commencer tout de suite avec un premier segment. Tu me diras, en fait, on aimerait que tu actes comme juge, comme dragon. Tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'on doit travailler dans nos concepts, puis les renvoyer à la limite des concepts si jamais ils sont vraiment bons.
Voilà. C'est ça, pas besoin de nous ménager, là. C'est vraiment pas bon, là, faut se le faire dire.
Capable d'en prendre. Tu prêt?
Oui, mais moi je suis en fait, je suis pas très bon dragon parce que je suis plus justement un homme à idées, et peut-être que je vais en fait rebondir et donner des suggestions.
Ah ben ça c'est cool. Encore mieux.
Alright, fait qu'on va commencer tout de suite. On avait pensé à des quiz de couple. À un moment donné, on a fait ça parce que Maxime et moi, on est des frères. Fait qu'on faisait un quiz de couple. Exemple.
Quel est le film préféré de Guillaume?
Moi, c'est le Full Metal Alchemist.
Ah oh, ben moi j'avais écrit 17 Avenue des Pins le film.
Ah oh, ben on l'a pas eu.
Disons que ça me semble limité quelque part, mais on sait jamais. Peut-être qu'en changeant les sujets à chaque fois vraiment de façon pointue, ça. Ben, je pense que. Mais ce serait pas seulement vous deux, vous inviteriez aussi d'autres couples de temps en temps.
Ouais,
faudrait inviter d'autres.
Ouais, faudrait tâter le terrain pour connaître d'autres personnes. Mais tu sais, si on fait ça, faut quand même soit qu'on ait deux invités, soit que c'est quelqu'un que un de nous deux connaît beaucoup.
Ouais, il faudrait alors que tu fasses un couple avec David, mettons.
Mettons. Okay. Fait que ouais, ça prend dans la note. Fait que c'est peut-être juste un one-time deal, mais sinon il faut des très bonnes questions ou d'autres invités.
Alright, fait que Maxime, tu peux y aller peut-être avec un deuxième segment.
Il y a un autre segment qu'on a fait dans la première semaine que nous on a beaucoup aimé puis que on s'en fait encore parler. C'est questions pour un shampoing. Le concept, c'est que on lave les cheveux de un de nous ou de un invité. Puis en même temps qu'il se fait laver les cheveux, il doit répondre à des questions de culture générale.
C'est important, faut que la personne ait des cheveux, sinon ça marche pas. Puis qu'elle ait une culture générale, sinon ça marche pas non plus.
Et là, je ferais bien un exemple, mais je pense pas que
Je peux essayer de poser une question. Mettons, c'est quoi la capitale du Brunei?
C'est Montréal!
C'était Brossard! Je veux dire, Bandar Seri Begawan!
Les cheveux vont être vraiment plus
les
sales!
Les cheveux sont sales!
Ça ressemble un peu à ça!
J'ai l'impression que ça passerait mieux à la télé, peut-être, comme concept amusant. Faudrait le suggérer, peut-être, à un producteur télé.
Peut-être le filmer la prochaine fois.
Ouais, ou demander à Patrice Lécuyer, peut-être qu'il pourrait faire ça à Silence on joue.
Okay. Ou au moins avoir une photo à projeter sur l'écran YouTube. Ouais.
Parce qu'une question qu'on se faisait demander, c'était est-ce que tu lavais vraiment les cheveux de ton frère? La question est oui.
Et oui.
Ses cheveux pour vrai.
Mais est-ce que, de l'avoir juste en audio puis de faire planer le mystère, c'est pas un peu ça aussi le plaisir?
Ouais, suspens.
Ah ben Guillaume,
mais c'est pas grave, on a fait d'autres choses aussi.
C'est certain qu'on peut introduire un peu de surprise en révélant à la fin. Aujourd'hui je l'éteins et j'éteins ses cheveux en vert. Ou en fait j'ai mélangé un peu de poils à gratter au shampoing.
On a mis de la crème qui fait tomber les cheveux. C'est ton dernier shampoing.
Hey, on a fait autre chose aussi qui était vraiment intéressant. On a fait la recette de geek. Ça veut dire que on a choisi une recette. Dans ce cas-ci, c'était une recette d'une salade de betterave de Game of Thrones.
Telle que décrite dans les livres.
Et on l'a reproduit, puis on y a goûté. Puis c'était drôle parce qu'on pouvait avoir nos commentaires sur la recette en direct parce qu'il y avait des oignons en Christie dans la recette.
Il dit d'utiliser deux oignons. Guillaume a pris les deux oignons les plus gros du magasin.
Hey, on était chez Walmart, OK?
Ben, moi, je pense que c'est d'abord un concept qui est pratiquement sans fin parce que j'ai vu même passer des livres de recettes geek dans ce genre-là et il y en a de plus en plus, donc ça peut marcher longtemps. Là, peut-être c'est les réactions aux recettes qui, à un moment donné, vont être un peu toujours un peu les mêmes. Bon, mauvais, je meurs à la fin en essayant de manger ça. Par contre, c'est un concept qui pourrait marcher, je pense, aussi bien à la radio qu'à la télé. Parce que, surtout les préparatifs, ça marcherait bien, les émissions de cuisine.
Il y a juste ça à la télé, des émissions de cuisine.
Sauf qu'il n'y a pas, je ne sais pas s'il y en a encore de cuisine geek.
C'est vrai, on est peut-être concepts. Les premiers à Québec.
Je trouve ça vraiment cool. Bon, ben,
embauchez-moi comme recherchiste, j'ai quelques documents.
On fera un pudding à l'arsenic la prochaine fois.
un autre jeu qu'on a fait, parce que nous, on aime beaucoup les jeux. C'était les titres de films, OK? Mais c'est le but du jeu, c'est que j'invente des types de films. Il faut deviner des choses qui représentent ces titres de films-là, OK? Comme le premier épisode, c'était des titres de films de parties du corps. Donc, je décrivais des parties du corps avec des titres de films et l'invité et Guillaume devaient deviner c'était quelle partie du corps que je pensais en écrivant ce titre-là. Comme, par exemple, j'avais écrit... je vais en prendre un qui est pas trop... lequel qui est bien? Séparation, l'histoire d'une cicatrice.
Ah!
Donc, on voulait parler de quelle partie du corps? Et on va voir si Jean-Louis est fort en questionnaire.
Allez, on l'avait trouvé.
J'ai quelques idées. On peut... l'appendectomie, l'amygdalectomie...
Non, vraiment des parties du corps qu'on cherchait. C'était le nombril.
Le nombril. Ah.
Donc, c'est la grande séparation. Oui, c'est la cicatrice. Donc, c'est toutes des parties, c'est toutes des titres de films qui représentent des parties du corps. Parfois loufoques, parfois un peu moins. Mais c'est ça. Ça. Moi, c'est le concept que j'ai inventé pour la semaine 6, 5.
C'est un concept qui est cute, mais je pense effectivement un peu limité pour une semaine, mais je pense pas que ça puisse s'exploiter au-delà. Je pensais par contre que vous alliez peut-être partir avec le concept on invente un titre suffisamment explicite et ensuite on essaie d'imaginer le film qui va avec, un peu comme Pictionary.
Ah, ça c'est quand même une bonne idée.
C'est drôle, ouais. Ouais. C'est un peu, je pense que c'est un peu comme Pictionary, ce genre de jeu, mais
on pourrait peut-être prendre ça en note.
Sur ma feuille de glace.
Cric, 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 cric. Oh!
Un autre concept que je trouve cool, puis que c'est vraiment hot parce que le monde y en parle en plus, c'est le bris de kayfabe. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi un kayfabe? C'est tout l'univers c'est tout l'univers de la lutte qui doit être protégé pour pas que ça a l'air fake. Fait que dans le fond, quand on brise le kayfabe, on sort des sentiers battus pour expliquer ce qui est fake, dans le fond, dans la lutte. Puis, dans le fond, c'est juste le principe de raconter ce qui s'est passé dans le monde de la lutte. Parce que de plus en plus, dans le monde de la lutte, il y a des trucs cool, parce qu'il y a des Québécois qui sont rendus dans la lutte, puis on aime ça, suivre ça, on est des gros fans de lutte. Mais dans le fond, c'est comme si t'écoutais 110% ou l'attaque à 5, puis que c'était à propos de la lutte au lieu du Canadien.
On fait ça un exemple.
Faire un exemple.
Hey, t'as-tu vu John Cena?
John Cena, je l'ai pas vu. Parce qu'on peut pas le voir.
Ben, c'est ça, c'est son slogan. C'est son... You can't see me. Ah, c'est pas le meilleur exemple.
Ça marche très bien pour la radio, ça.
Oui! un concept qu'on n'a pas encore fait, que moi m'intéressait quand on a commencé le projet, c'est la playlist YouTube. Parce que je suis quand même un grand consommateur de YouTube. Là, je vais écouter, je vais dire des chiffres qui n'ont pas d'allure, mais je vais écouter une bonne dizaine de vidéos par jour. Soit c'est juste en audio, en travaillant, ou des fois c'est en arrivant de la job, en faisant un souper. Je suis à peu près tout le temps en train d'écouter du YouTube. Puis je peux pas vraiment en parler avec personne, parce que c'est comme... Je sais pas si c'est un tabou ou c'est juste que c'est comme pas répandu. On dirait qu'il y a personne qui parle de ce qu'ils ont vu sur le web. Fait que souvent, je vois des trucs, j'aimerais s'en parler, je peux pas vraiment en parler parce qu'on dirait que l'univers du web est coincé dans le web à certains moments.
Tu peux juste en parler sur Reddit, c'est ça que t'es en train de dire.
Ouais, c'est ça, je peux juste aller genre spécifiquement voir, parce qu'en plus, il y a tellement de vidéos sur YouTube que la chance que ton voisin l'ait vu aussi, à moins que tu le forces à regarder les mêmes trucs que toi, mais probablement qu'il l'aura pas vu lui non plus. Fait que je pensais profiter de la plateforme du site Amis des Pins pour extérioriser ce que j'ai pensé sur les youtubeurs que j'ai vus. Surtout mes amis québécois, parce que j'en connais plusieurs youtubeurs qui font des bons trucs, des moins bons trucs aussi.
Oh ouais,
mais
ouais,
tu sais, je pense que ça vaut tout le temps la peine d'en parler parce qu'au final, les gens peuvent juste s'améliorer.
Ah ben, quelque part, à un moment donné, dans tout média, ce qu'il faut pour que ça augmente, que ça croisse, c'est une couverture, c'est de la critique. C'est de retentissement. Alors, oui. De toute façon, quand même, il y a des gens qui voient certaines vidéos sur YouTube via Facebook ou les autres médias sociaux. Donc, il y a peut-être pas... certains sont peut-être complètement inconnus s'ils ont vraiment aucun écho dans les médias sociaux. Et à ce moment-là, ça vaut peut-être la peine d'en parler s'ils sont bons. Mais...
Donc, ça serait pas un cercle vicieux, mais un cercle heureux.
Vertueux.
Donc, c'est un cercle vertueux. Donc, si je regarde plus de YouTube, puis j'en parle plus, il y a plus de gens qui vont aller regarder YouTube, puis il va y avoir plus de gens avec qui je vais pouvoir en parler.
Hey, c'est une fin de pyramidale. Hey, c'est illégal.
Yeah!
Hey, hey, on aime ça, on est dans le danger, c'est cool.
Ah ben, en rafale, si on termine ça, parce que ça fait quand même un bout qu'on parle de nos idées.
Effectivement, on a fait des chroniques hommages, où est-ce qu'on faisait l'hommage du disco, entre autres, qu'on a fait, puis on a pleuré le disco, parce que le disco est mort.
Ouais, on traduit des chansons en français, et oui. On les chante, même si on n'est pas nécessairement les plus grands chanteurs.
On raconte des histoires de peur du web qui sont vraiment douteuses et pas très très bonnes.
On fait des sketchs qui se portent aussi à l'audio. On a fait une scène de Kaamelott, puis une autre petite blague que c'était des jeux de mots sur les sites dans Star Wars. Il y avait du jumeau avec les sites web et tout ça.
Puis on a fait d'autres trucs là où est-ce que, admettons, on donnait deux choix à quelqu'un, du style de Would You Rather.
Ouais.
On lui laisser une minute pour se justifier, mettons.
Une minute pour se justifier sur, mettons, le troisième lien ou le SRV. Le SRV. Donc, au final, c'est, on voit qu'on touche à beaucoup de trucs. On touche au sport, aux jeux, les jeux vidéo, les histoires, la musique, les sketchs. Est-ce que c'est trop varié ou est-ce que tout ce qu'on a dit en général, tu penses que ça peut faire un package intéressant?
Ah, ça. Ben, le dernier concept, c'est quelque chose que j'entends à la radio, en tout cas de certaines des émissions de Radio-Canada qui font ça, ou peut-être les sports, ceux qui faisaient les pornographes autrefois là, et qui font maintenant l'émission le vendredi soir, peut-être.
Ouais, je me souviens plus du titre de l'émission, mais je sais.
Et ils font, si c'est pas eux, c'en est d'autres qui font choisissez un bar et justifiez-le. C'est peut-être l'émission quiz en fait avec l'ancien de la semaine prochaine. Choisissez une minute pour défendre un sujet et piger au hasard quel côté vous défendez. Donc ça je l'ai déjà entendu comme concept. Et sinon, ben écoutez, c'est une base et ça, j'écoute pas assez la radio pour dire si c'est si c'est complètement novateur ou pas. Quoique je puis peut-être quand même aussi parmi peut-être moins de gens qui écoutent la radio qu'avant, je suis pas sûr.
J'aurais tendance à dire que oui, là, parce qu'on se bat frénétiquement pour gagner la cote d'écoute sur les ondes de la radio. Puis disons que le podcast s'est développé de manière bien souvent gratuite et quand même variée, ce qui fait que.
Puis les podcasts souvent n'ont pas de pub en plus, donc du moment que tu trouves une série des gens qui t'apprécient, c'est souvent très régulier, c'est sans pub et ça peut être écouté n'importe où, n'importe quand.
En fait, c'est ça. Moi, j'écoute pas la télévision, donc j'ai plus de temps pour la radio. Mais je sais pas si c'est le cas de tout le monde.
Ouais. Donc, ben, merci beaucoup. Et moi, je suis content d'avoir parlé de tout qu'est-ce qu'on fait.
Disons que je suis un peu soulagé. J'avais ça. C'était des tensions internes qui étaient très, très fortes.
Fait que là, ça, quand le monde dit c'est quoi le set à des pains, ben, on a juste à leur montrer ce segment.
Ben, c'est tout ça. C'est...
Faut continuer.
Accompagnés par un auteur d'expérience, les animateurs tentent l'expérience ultime. En 10 minutes, ils écriront la ligne directrice du prochain best-seller de la littérature science-fiction. Guillaume se veut d'ailleurs... créatif.
Fait que je voyais peut-être des licornes, pis là, des châteaux...
Là, gars, on peut pas tout dire ce qui nous passe par la tête. Là. Ok, on va tenter de bâtir un synopsis du plus grand, le prochain hit de science-fiction. Mais là, il faut qu'on se mette des règles. Est-ce que les licornes, ça passe ou ça passe pas?
Ça peut passer, mais je pense qu'on a intérêt à renouveler un peu la licorne.
Donc,
on la recycle.
Peut-être en faire une créature sur une planète extraterrestre. Là, ça nous mènerait vers la science-fiction. Ou sinon, en fantasy, le problème, évidemment, c'est que c'est très associé à la pureté virginale, la vertu des femmes, la créature du rêve... Est-ce qu'il y a moyen d'avoir peut-être des licornes cauchemardesques?
OK. Comme quand on fait de l'impro, on dit prends un concept, puis essaye de trouver son opposé pour faire quelque chose de drôle, puis de paf!
Contrevenir aux attentes.
Ouais, exactement.
OK. Fait que c'est pas nécessairement à jeter, mais il y a du travail à faire si on veut inclure ça.
Ouais, OK.
Moi, un concept que j'aime beaucoup, c'est dans l'imaginaire en général, c'est la fusion.
La fusion.
Le concept de fusionner deux personnes ensemble puis de garder comme leurs meilleurs attributs. Puis j'ai pas l'impression que c'est un concept qui est surexploité non plus. Je sais pas, est-ce que c'est un concept que vous voyez souvent?
Mais pour la construction de personnages ou pour vraiment avoir un rôle dans l'intrigue du film?
Littéralement, les personnes, le concept que deux personnes peuvent fusionner leur corps.
Ah! Ouais, effectivement, j'ai pas vu ça très souvent, ça me rappelle quelques scénarios nouvelles qui donnaient des résultats assez curieux d'ailleurs. Mais quelque part, ce serait un peu. On pourrait faire un peu l'inverse de Dr. Jekyll et Monsieur Hyde. Et. Oui, ça, quelque part, une équipe de. Je sais pas, de super-héros qui fusionnent pour en créer. Celui qui a toutes les qualités, tous les pouvoirs. D'ailleurs, je pense que ça a déjà été fait quelque part dans l'univers des super-héros. Ça me dit vaguement quelque chose aussi.
OK.
Mais
je pense que le deuxième film des 4 Fantastiques, un moment donné, il y en a un qui se ramasse avec tous les pouvoirs. Je
pense que oui.
C'est vrai?
Je pense que oui.
C'est pas le surfeur d'argent?
Non, c'est pas, justement, c'est pour battre le surfeur d'argent.
Ah, battre le surfeur d'argent, ok, ok. Mais il me semblait que le surfeur d'argent, finalement, c'était pas le vrai méchant.
Ben, parce que lui, il travaille pour Galactus, ça, c'est bien compliqué.
C'est compliqué. Ok, fait qu'on y va avec du monde qui se fusionne. Est-ce qu'on veut des personnages qui sont comme un peu plus comme le quotidien, là, notamment?
Ben, comme on a dit, faut que ça garde un certain sens du réel.
Oui, ouais. Mais si on va du côté de la vraisemblance, bon, ça me rappelle un roman de science-fiction où c'était aussi des individus avec plusieurs corps. Et donc, plus ou moins l'idée qu'une petite meute de loups était en fait un seul individu qui communiquait télépathiquement.
Comme les Borg.
Oui, un peu ça, c'est ça. Ouais. Oui. Mais avec une évolution naturelle et sans le côté cyborg, machinique.
Okay. Est-ce que la fusion, dans le réel, le moment où est-ce que des gens comme fusionnent, c'est pendant le mariage.
Mm-hmm. Oui, donc, ben oui, quand ça a été décrété par le Seigneur.
Ouais, donc deux personnes s'unissent pour la vie. Ouais. Est-ce que...
Ils ne font qu'un corps.
Ben, est-ce qu'on pourrait pousser ce concept-là littéralement que quand deux personnes se marient, avec les alliances, on a pu développer des alliances technologiques qui font que les deux personnes, quand il se passe les anneaux, fusionnent et deviennent une seule personne. Fait que là, on vient vraiment comme concrétiser le concept de la fusion. Puis on pourrait dire que ça a été fait pour comme combattre la surpopulation, parce que justement, pour chaque parent, il existe juste un parent après ça. Fait que là, la population devient comme de moitié. Ils peuvent continuer à avoir des enfants puis à se reproduire.
C'est tellement méta, puis là, ça pourrait genre avoir des méchants qui essayent de passer l'anneau pendant le sommeil, genre qu'ils essayent de fusionner avec d'autres personnes pour toutes sortes de raisons machiavéliques, là, sans consentement, mettons. Hey, ça pourrait être complètement capoté.
Ah oui, non, il commence à y avoir du potentiel.
Ok, donc, je vais écrire ça. Donc, la fusion.
Donc, la fusion, ce serait uniquement pour des mariages ou ce serait où vraiment les anneaux permettraient de... Et la fusion, ce serait un peu une sorte de... Les deux personnalités, on n'en ferait plus qu'une. Une personnalité dans deux corps, par contre. C'est ça?
Deux personnalités dans un corps. On a dit le contraire. Là.
Ah, ok, d'accord.
La fusion, les deux personnes deviennent un seul corps. Hmm. Mais est-ce que les deux personnes gardent quand même chacun leur âme?
Ben, en fait...
Ou ça devient une personne complètement différente?
A priori, ce serait peut-être effectivement une personne complètement différente, mais avec les mémoires, les souvenirs des deux autres personnes, certaines des qualités, des connaissances des deux autres personnes. Après, il y a la question du sexe. Le corps sera-t-il masculin, féminin, hermaphrodite, asexué? Il y a différentes possibilités. S'il est asexué, ça résout effectivement la surpopulation.
Donc le concept de...
Et ça annonce enfin la fin de l'humanité aussi. Asexué, je dis.
Faut pas que ce soit asexué, parce que sinon, que ce soit de la fécondation in vitro. Il faudrait que ce soit nécessairement des femelles.
ou sinon, c'est le comme dans plusieurs concepts de science-fiction, la partie de procréation, c'est devient un métier à part, où est-ce que là, tu n'as pas le droit de te marier. Mais là, ça vient un peu rejoindre Le Passeur. Je sais pas si vous avez tous les deux lu Le Passeur. Dans Le Passeur,
oui,
il y a...
je n'aime pas de cet aspect-là.
Ouais, les femmes qui peuvent avoir des enfants, c'est vraiment un métier à part, puis eux autres ne peuvent pas atteindre le statut de couple, si je ne me trompe pas. Fait que ça vient un peu rejoindre ça, là, ça c'est sûr. Hein. Mais, fait que là, au mariage, le corps, lui, on dit, là, faut qu'on arrive avec un concept, là. Fait que
ça prend
Allons-y avec un peu l'idée de Guillaume, peut-être, justement, que pour que la société se maintienne, en général, les fusions se font avec un peu comme, presque on pourrait introduire le motif de menthe religieuse quelque part là-dedans, mais essentiellement, la femme absorbe la personnalité de l'homme. Et donc, on aboutit avec une société de femmes qui se reproduisent parthénogénétiquement, donc en ayant des enfants qui seront d'autres femmes ou d'autres hommes. Donc, ça permet quand même, effectivement, d'avoir d'autres fusions entre hommes et femmes. Mais avec, effectivement, à un moment donné, il y aura donc très peu d'hommes passés un certain âge, seulement des célibataires qui ne se sont jamais mariés, disons. Et ils pourraient... Ouais, c'est ça, on peut jouer avec ça.
OK. Donc là, on a notre notre monde de base.
C'est là, un... on règle le problème du divorce aussi.
Ben oui, mais est-ce que justement ça pourrait être le conflit du film, ou est-ce que il y a certains hommes qui veulent commencer à se rebeller parce qu'ils disent qu'ils ont comme plus de pouvoir dans la société, puis ils réussissent à inventer un anneau inverse qui permet la scission des gens, puis il réintroduit le divorce dans la société.
Ah, ça pourrait être ça.
Ah, ouais, ouais.
Il y aurait aussi, la solution, des mariages homosexuels. Ou s'il y a deux hommes.
Ah, c'est vrai, ça aussi.
Mais, et à la limite, c'est ça. Ça donnerait en tout cas une sorte de petit groupe minoritaire dans la société, et qui justement, ne participerait pas. Pourrait adopter des garçons. Je suis pas sûr, justement, par contre. On s'éloigne peut-être un peu, effectivement, d'une trame dramatique où il faudrait, peut-être jouer sur...
La place de l'homme dans la société.
Mm-hmm.
Dans une société
purement matriarcale.
Ouais, c'est ça.
Ben, pas tout à fait, parce que quand même, avec la fusion, les femmes...
Ils ont marié.
Ont absorbé, ont...
Ils ont des attributs masculins qui sont rendus permanents chez eux.
Chez elles.
Chez elles.
Ah, je sais plus comment les appeler. Roger, je sais plus quoi dire. Fait que là, ils utilisent quelle salle de bain? C'est ça qui est important. Bon.
Eh bien, est-ce que c'est vraiment des salles de bain par sexe ou des salles de bain par fusion, pas fusion?
Fait que par situation sociale, en fond, par... comment on appelle ça?
Statut civil.
Mmh.
Ouais.
Ah, c'est weird.
Puis, tu sais, les deux... Tu sais, à quel âge, tu sais, il faut établir des règles. À quel âge que les gens peuvent se marier? Ben, si les deux ont des carrières accomplies et que tu deviens juste un corps, tu peux pas continuer les deux carrières.
Non, fait qu'il faudrait que...
Mais, par contre, ce serait peut-être justement à la sortie de l'université, avant d'embarquer dans une carrière, tu te maries et à ce moment-là, t'as le choix entre plusieurs carrières. Parce que t'as deux diplômes.
T'es une personne, deux diplômes, fait que là, tu règles aussi le problème
de ta main-d'œuvre.
De chômage, parce que chaque personne est qualifiée en deux oui. Domaines.
Oui.
En fait, là, je suis en train de penser à un film que j'ai vu il y a deux ans. Quoique, en fait, là, c'était pas tout à fait ça, mais il y a aussi une autre trame qui serait, classique Hollywood, disons. Mais l'idée, qu'est-ce qui arrive donc au corps de l'homme après le mariage? Donc, on se dit qu'en principe, c'est une sorte de scénario de menthe religieuse. Le corps masculin est détruit. Il n'a plus d'âme, disons, d'esprit. Donc, il peut servir à des transplantations et tout ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui se passerait si, en fait, la fusion, en fait, n'est pas une fusion complète ou un transfert complet? C'est-à-dire qu'en fin de compte... Oui, les femmes absorbent l'esprit de l'homme, mais avec tout ce que ça va. Mais en fin de compte, l'original reste dans le corps. Et là, tout d'un coup, il y a un homme qui se réveille, qui était censé avoir été dépecé en pièces de rechange pour transplantation ou quoi que ce soit. Sans aller dans la solution soleil vert. Tout d'un coup, là aussi, il se retrouve, entre autres, face à la femme qu'il a épousé, qui a maintenant ses propres souvenirs, mais lui, il existe encore.
Dépouillé de comme ses qualités professionnelles.
Peut-être pas dépouillé, mais simplement, il est seul dans son corps, et il y a en face de lui une femme qui a tous ses souvirs, qui a constitué une nouvelle personnalité, donc ce n'est plus vraiment non plus seulement sa femme, c'est un autre individu. Et franchement, voilà, ça j'aime pas. Parce qu'on
a
envie de partir avec ça.
Bon, donc, ça fait sensiblement 10 minutes. Donc, si on fait un résumé, c'est un monde sensiblement futuriste.
On peut rayer la licorne.
Ouais, je pense...
je pense qu'elle est plus importante, la licorne.
Donc, ouais, ça serait un monde futuriste sensiblement... qui ressemble sensiblement au nôtre, mais dans lequel, où est-ce que le mariage, ça implique de se fusionner avec l'autre personne. Cet acte-là est fait la plupart du temps à la sortie de l'université afin de permettre à la main-d'œuvre d'avoir des qualifications dans deux emplois différents. Et le corps de l'homme est dépouillé dans le sens que c'est lui qui se fusionne dans le corps de la femme et le restant du corps des hommes sont utilisés pour la médecine et les recherches. Puis notre point central serait de l'histoire serait un homme qui lui est resté vivant après la fusion, donc c'est comme dédoublé. Il y a lui dans son corps et lui dans le corps de la femme qu'il est devenu. Puis on suivrait l'histoire de cet homme-là qui n'a comme plus de place dans la société parce que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, puis qui cherche à comprendre le concept de la fusion, qu'est-ce qui se passe avec les hommes.
Oui, et puis il y aurait, bon, c'est ça, il y aurait quand même des célibataires dans cette société masculine. Mais néanmoins, oui, c'est ça, là il faudrait réfléchir sur la suite effectivement d'un point de vue dramatique. Est-ce qu'il voudrait changer complètement cette société? Est-ce qu'il voudrait... ou est-ce que ce serait plus axé sur son rapport, justement, avec l'ancienne femme qui est aussi lui? Est-ce que ce serait une sorte d'histoire d'amour extrêmement narcissique à certains niveaux?
Là, après ça, c'est sûr qu'on peut la faire, diverger dans oui, plein oui. de sens différents, mais je pense qu'on a quand même, en 10 minutes, je pense qu'on a atteint un synopsis qui pourrait se tenir, puis qui pourrait avoir...
Mais c'est un point de départ.
C'est un point de départ.
Soyons francs, là, je vais jouer mon rôle de juge et dire que c'est un point de départ. C'est pas encore justement un scénario, une intrigue. C'est un point de départ et assez stimulant. Peut-être un peu marginal comme idée par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Mais d'un point de vue budget, disons que c'est quelque chose quand même qui n'exigerait pas de gros effets spéciaux, puisque tout se joue un peu sur peut-être le rôle des acteurs. Le jeu des acteurs.
Donc, ce serait une histoire qui pourrait bien se transposer à l'écran.
Plutôt proche.
Ouais.
Peut-être même un film petit budget, quelque part.
Mm-hmm.
Ça sera peut-être assez faisable.
Et félicitations.
Hey, cool. Hey, beau travail.
Hey, good job. Merci. Merci, Jean-Louis. Est-ce que j'entends ce que je pense que tu entends?
Ah, je pense que je l'entends moi aussi.
C'est l'heure du coucou. C'est déjà l'heure terminée de notre rencontre au 17 Avenue des Pins. Comment est-ce qu'on a trouvé notre expérience, Jean-Louis?
Je me suis amusé.
Yeah, ben nous aussi on s'est amusé, très content.
Certainement. Écoutez, vous pourrez nous retrouver à toutes les semaines, le mercredi, à la même heure où est-ce que vous l'écoutez, ou en rediffusion sur Facebook et sur Mixcloud. Juste à suivre la page du 17 Avenue des Pins sur Facebook pour plus d'informations.
Et toi, est-ce que tu as des facettes sur le web dans lesquelles on peut te rejoindre?
Ben, il y a une page auteur Jean-Louis Trudel sur Facebook. J'invite tous ceux qui veulent suivre mon actualité littéraire s'abonner à cette page auteur, juste chercher Jean-Louis Trudel et voir quelle page semble légitime et être... à un moment donné, j'ai eu un imposteur sur Facebook, un peu comme tout le monde.
Ouais. On va mettre des liens de toute façon.
Et sinon, il y a le site du Congrès Boréal qui est Congrès Boréal.
C'est quelle date à Québec?
Ce sera le mois de mai prochain, 2017, donc 5, 6, 7 vendredi, samedi, dimanche.
Super, ben, au plaisir de se recroiser là-bas. Merci beaucoup d'être venu. Au plaisir de vous réinviter, de se reparler éventuellement.
Au 17 Avenue des Pins. Oh,
salut Guillaume, on se revoit bientôt.
À bientôt.
Le 17 Avenue des Pins est une production Puissance Maximale. D'une idée originale réalisée, montée et animée par Maxime et Guillaume Lemieux. De retour la semaine prochaine, toujours mercredi, 19h.